l'économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Genève bouge pour la planète.
Elle fait tout pour, Émilie. Alice Fabrizi, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de The Good Token Society. Nous allons parler blockchain, système décentralisé. Ne zappez pas, justement, vous allez pouvoir tout comprendre. Je synthétise blockchain ou chaîne de blocs dont on a beaucoup entendu parler avec l'essor du Bitcoin. C'est une sorte de grand livre de compte, un grand livre blanc dans lequel toutes les transactions sont inscrites. Donc, c'est inviolable. On a forcément une trace de ce qui s'est passé. Est-ce que je l'ai bien résumé ?
J'ai rien à dire.
Eh ben merci, bonne journée.
Merci, c'est parfait. Vous avez extrêmement bien résumé ça.
Non, mais ce qui est important, c'est qu'il y a donc ces blockchains. Mm-hmm. Et comment est-ce qu'on peut rendre tout cela un petit peu plus vertueux ? Comment tout cela peut avoir un impact positif sur la société ?
Alors, c'est une des réponses de The Good Token Society, le propos de l'association, c'est de montrer qu'au-delà de l'aspect purement spéculatif, qui est souvent lié au BTC, au Bitcoin, en fait, la blockchain va avoir plusieurs implications dans de nombreuses industries et les vertus de cette technologie sont bien au-delà, en fait, d'une crypto-monnaie.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est la décentralisation, déjà. C'est le fait de ne plus avoir besoin d'un tiers de confiance ou de pas confiance. C'est la possibilité de se réapproprier ses données. C'est-à-dire que quand je communique avec vous, je n'ai pas besoin, en fait, que quelqu'un stocke ma donnée, l'analyse.
En l'occurrence, Alexandre de Snarklan, qui est déjà avec nous. Bonjour à vous, d'ailleurs, vous dites déjà.
Donc, ça passe en direct, en fait, de vous à moi. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est l'anonymat aussi. Même si ça peut toujours faire un peu peur, mais c'est quand même pas désagréable. C'est l'inviolabilité. Et la traçabilité. Donc la traçabilité, c'est aussi des applications qui peuvent être dans le secteur des transports.
Mais est-ce qu'un tiers de confiance ne peut pas être pertinent ? Si par exemple, je ne sais pas, vous me vendez un appartement. Voilà, vous construisez un appartement, moi je l'achète. Il y a une banque qui s'assure que j'ai les fonds, qui s'assure que l'argent vient bien sur mon compte. Ça n'existe plus avec la blockchain ?
Non, ou du moins ça a vocation à exister différemment. En fait, la blockchain peut avoir différentes applications au niveau, pour prendre cet exemple de l'immobilier, qui est un secteur qui est extrêmement intéressé et intéressant pour la blockchain.
Avec des entreprises qui travaillent avec, hein, qu'on a reçu dans cette émission.
Bien sûr, ouais. Il y a vraiment des entreprises qui travaillent avec. En fait, quelque part, c'est l'histoire, le sens de l'histoire, de faire évoluer les métiers, de faire évoluer les intermédiaires. Il y en a toujours eu dans certains secteurs, et puis après, il n'y en a plus eu, enfin, etc. Et quand on peut faciliter, finalement, en fait, c'est une technologie parfois facilitante. Donc, si on peut vendre directement un bien de A à B sans que A+ ou B- viennent au milieu, c'est plutôt pas mal.
Et le cash dans tout ça, alors, il disparaît, c'est fini ?
Le cash, mais c'est pas le problème. Le cash, c'est plutôt.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent.
Ouais, je sais. Non, mais je pense que de toute façon, il n'y a pas besoin des crypto-monnaies ou de la blockchain pour que le cash disparaisse. Donc, ça, le processus, il est engagé bien avant le développement de cette technologie. Donc, ça ne changera pas. Je pense que c'est pas à ce niveau-là, c'est pas la blockchain qui est le problème.
Il y a deux mots-clés dans ce que vous nous dites. Ce côté solidaire. Hein, on passe directement de A à B, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement capitaliste. On peut conjuguer les deux ?
Il faut conjuguer. C'est ce qu'on a perdu. En fait, c'est le propos de la décentralisation et le propos de cette technologie, c'est d'avoir la possibilité de créer des applications et des systèmes business vertueux. En fait, on a oublié que l'économie, elle peut être vertueuse aussi. C'est à nous de décider d'en faire ce qu'on en veut.
Vous vous intéressez à le faire savoir, mais au-delà de ça, quelle est l'idée finale, l'envie finale de Good Token Society ?
Alors, l'envie finale, il y a trois piliers pour nous. Il y a vraiment la fédération des entreprises de ce secteur-là, blockchain, tokenisation, intelligence artificielle, Web3, enfin disons, déjà partons sur l'esprit de la blockchain. C'est le constat d'une compétition internationale féroce, à juste titre. C'est du sans frontières. Donc, se fédérer, s'unir, c'est quand même assez important. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, à Genève, qui des PME, pas toujours de grande taille, donc qui sont à la croisée des chemins entre 5 et 15 salariés. Donc, c'est quand même pas rien non plus. Donc, ce sont des emplois, c'est des compétences multiples, c'est pas seulement des gens de la tech. Donc, le propos, c'est de les fédérer, déjà, de les rassembler. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, il y a déjà, au niveau des fondateurs, c'est une quinzaine de sociétés qui ont décidé d'aller sous la bannière The Good Token. Ensuite, il faut en faire un peu la promotion, quand même, il faut en parler. L'enjeu, c'est de montrer qu'au-delà du spéculatif, il y a la possibilité d'avoir des applications business vertueuses, que c'est applicable dans la santé, dans le divertissement, dans la culture, dans les médias, que c'est pas seulement l'art et la finance, en fait, la décentralisation et la blockchain, et éduquer. éduquer, vraiment. Et c'est le moment le plus important, je pense, parce qu'il va falloir que le public et aussi les entreprises, que ce soit dans un besoin immédiat, soit en prévoyance, en anticipation, il faut éduquer les gens. Donc là, c'est le gros de notre activité, avec des sociétés membres de l'association, d'organiser des workshops, des ateliers, des masterclass à destination privée-publique.
Et j'ai presque peur de ma prochaine question, parce qu'il y a Alexandre de Sénarclan, il y a Vincent Subilia, mais je la pose d'ailleurs, messieurs, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire, mais le temps de la technologie n'est pas le même que le temps politique, est-ce que ça, c'est un problème ?
Alors oui et non. Oui, parfois, parce que malheureusement aujourd'hui, le politique, parfois, pourrait soutenir ces entreprises. Et soutenir des entreprises, clairement, c'est aussi un peu d'argent quand même. Et c'est vrai qu'il y a, certaines régions du monde, Dubaï pour ne pas la citer, ils ont décidé de mettre leurs fonds à disposition de cette nouvelle technologie, donc ce qui fait que c'est un aspirateur à la société, et c'est dommage parce que ce sont notamment des sociétés d'ici qui partent, donc des emplois aussi. Et puis après, ce qui est bien aussi, c'est que le politique, quand il est dans la question de régulation, qu'il ne vienne pas trop, parce que c'est une technologie au temps long, par définition. Honnêtement, c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle manière, c'est un nouveau paradigme. Quand on enlève l'intermédiaire, ça ne va pas se passer comme ça, du jour au lendemain. Donc c'est tout un mindset qu'il va falloir refaire. Donc c'est bien que le politique ne rentre pas trop non plus pour encadrer tout ce qui s'y passe. Donc voilà.
Vincent Subilia, je vous vois avoir envie de réagir.
Non, simplement parce que ce sont des propos qui entrent en résonance avec ce que sont les préoccupations de la Chambre sur ce juste équilibre qu'il faut définir entre l'intervention du politique ou pas. Et c'est vrai qu'on est dans une philosophie de marché qui se veut la moins interventionniste possible. Mais c'est vrai aussi qu'il y a souvent un décalage, on le voit notamment en termes de durée des processus, entre le temps économique que défend et promeut la Chambre depuis 158 ans et le temps politique. Et là, je parle aussi qu'une casquette de député. Il est souvent difficile de faire coller la réalité législative sur des évolutions technologiques qui, par essence, s'inscrivent dans des cycles extrêmement courts. Et donc, c'est le rôle aussi de l'économie venir interpeller le politique pour faire en sorte que les deux puissent avancer le plus souvent main dans la main. S'agissant de la mise à disposition de fonds publics, c'est vrai que la philosophie que nous défendons est celle non pas d'un arrosage à tout va des acteurs, mais de travailler sur les conditions cadres, ce que sont les paramètres qui permettent à des entreprises de se déployer de façon efficiente sur nos terres, parce que les limites du politique, on les voit très vite venir, c'est qu'à partir du moment où ils vous financent, ils attendent un retour sur investissement, et que tout ça peut in fine entraver l'entreprise dans son développement.
Et vous êtes d'ailleurs tellement décentralisé de Good Token Society que vous n'avez pas de site internet, mais on vous retrouve sur LinkedIn.
Nous avons www.goodtokensociety.com.
Tout simplement.
Tout simplement.
Bon, écoutez,
et
super.
On a une page LinkedIn aussi.
Parce qu'il y en a plusieurs qui portent ce nom Token Society. Là, c'est Good Token Society.
C'est parce que c'est le vertueux.
On vous retrouve entre autres sur LinkedIn, sur Eventbrite également, parce que vous participez à énormément de conférences. Vous faites justement ce côté psychologique, cette acceptation, ce pas qu'il faut faire. Hein. Ça peut faire peur. Soyez curieux. C'est pour ça qu'il y a The Good Token Society. Emilia Alice Fabrizi, merci beaucoup d'être passé nous voir.